Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Chaque jour dans le JDA, vous pouvez réagir et commenter l'actualité. Aujourd'hui, première édition de la semaine, je vous propose de parler des scrutins qui se sont déroulés hier au Tchad et au Bénin. Dans ces deux pays, des scrutins présidentiels, dans ces deux pays, peu de suspense. C'est habituel pour le Tchad, où Idriss Déby brigue un sixième mandat. Ce l'est un peu moins pour le Bénin, autrefois qualifié de parangon de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Alors, que retenez-vous de ces deux scrutins? À quoi ressembleront les lendemains d'élections dans ces deux pays? Pour participer, 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69, 33 7 66 19 77 69. Mais d'abord, comme de tradition, sans plus tarder, nous ouvrons cette émission avec vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Amis du JDA, bonjour. Ceux qui peuvent consulter les données internationales ou les archives vont bien se rendre compte que jusqu'à ce jour, il y a au moins 200 000 militaires américains au Japon. 200 000 militaires au Japon. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils sont là. Ils changent toujours d'équipe, ainsi de suite. Au Liban, je crois qu'il y a au moins 12 000 ou 9 000 militaires français qui sont là. Et en Allemagne, il y a aussi, je crois, 32 000, un chiffre de ce genre, des militaires américains. Alors, quand ces corps-là s'implantent, s'incrustent dans un pays, dans une région, ils ne veulent pas quitter. Ils veulent manger et vraiment être nourris par les populations, par l'effort des populations qui sont sur place. Voilà pourquoi, à cette question qui a été souvent demandée par Africa Radio, et à laquelle j'ai souvent répondu moi, malheureusement les interventions ne sont pas passées, les miennes. Aujourd'hui, je demande encore à Monsieur Kabila, Monsieur Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qu'il s'attelle, entre autres missions, vraiment mission prioritaire, que toutes les missions internationales quittent le Congo, la RDC. Que la mission de l'ONU, la MONUSCO, déjà là, la population est fatiguée, elle commence même à se révolter contre ces missions.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis des JDA, les peuples africains, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et les FCK. Le gouvernement SAM, ni les plis entendus, ni les plis éléphantesques. L'attente a été longue et devenu fantastique. On en parle désormais de moins en moins dans les rues de la capitale. Entre-temps, la population manque de tout et la guerre à l'Est persiste toujours. Tshisekedi tape le poing sur la table comme un commandant de tout pour monter à tous les Africains ou à tous les Congolais que tu es président de la République. Parce que ce que nous voyons, vraiment, c'est déplorable. Deux mois ou deux mois et demi pour la sortie d'un gouvernement, le social de la population est devenu difficile. Aïko Mopongi, résistant combattant, RCK.
Bonjour Stéphanie, bonjour Teresca Radio, bonjour l'Afrique. Il y a eu deux élections, on va dire trois élections en Afrique. Donc à Djibouti, avec Ismaël Galéa, qui a brigué un cinquième mandat, tout seul, en face de deux personnes, il s'est fait réélire. Comme ils disent, et tous, Koukao. Patrice Talon au Bénin, pareil, en face de lui, pas d'opposant. Idriss Déby au Tchad, pas d'opposant. Donc tous, ils vont se faire réélire. On brigue le sixième, le deuxième, le cinquième et le millième mandat, comme j'ai toujours dit. Et quand j'entends Idriss Déby, le dernier meeting, quand il fait son discours en disant que nous allons bâtir l'Afrique, nous allons sortir l'Afrique dans ceci, dans cela, c'est avec la jeunesse, avec nos candidats qu'on va faire de sorte que l'Afrique soit aussi un continent respectueux et aller de l'avant. Non, M. Déby, On ne peut pas construire l'Afrique, sauver l'Afrique avec des dirigeants comme vous et les autres, vos amis, qui ne veulent pas céder, qui ne respectent pas le principe de l'alternance. On ne peut pas développer un pays ou un continent avec de manière pareille. La politique, le développement va de pair aussi avec les principes démocratiques. Ça va de pair avec le respect des lois fondamentales. Alors, si nous, nous avons des dirigeants comme les Déby, les Sassou, les Talon, tous ceux-là qu'on peut imaginer, les Ouattara, les Kondé, en Guinée, là, comment on va développer l'Afrique? Comment on va développer nos États? Ça ne peut pas marcher. Donc, ils arrêtent de raconter des conneries s'ils n'ont plus d'arguments.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. N'hésitez pas, le répondeur appartient à tout le monde. Laissez vos messages, on entend régulièrement les mêmes voix. C'est pas plus mal d'ailleurs, mais vous pouvez, je redonne le numéro du répondeur d'ailleurs, c'est le 33 1 55 07 58 05. À la fin, donc c'est donc le répondeur. Pour participer en direct, il faut faire le 00 33 1 55 07 58 00. Après Djibouti, vendredi, c'était au tour du Tchad et du Bénin d'organiser hier leur élection présidentielle. Et comme à Djibouti, les deux présidents en sortant sont certains d'être réélus avec une confortable majorité en face d'eux. Personne n'est en mesure de les inquiéter dans les urnes. Alors, une absence d'enjeu qui a démobilisé les électeurs, selon vous. Comment le scrutin s'est-il déroulé chez vous? 33 1 55 07 58 00. On commence avec le Tchad. Hosanna, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour à tous les amis de JDA.
Bonjour Hosanna. Alors, comment s'est déroulé le scrutin chez vous? Vous êtes à N'Djamena, c'est ça?
Non, moi je suis actuellement vers le sud du Tchad.
D'accord.
Et donc ici, je vous assure que les gens ne sont pas sortis pour élire ou voter leur candidat. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, c'est Déby seul qui va aux élections. Hein, les vrais candidats se sont retirés. Tels que les Sale Kebzabo, les Yorongar ont refusé de se présenter ou de participer à cette compétition. Et hier, j'étais un président du bureau de vote, mais je vous avoue que ce qui s'est passé, c'est pas une élection, mais tout simplement une comédie organisée par Déby et ses complices. Sinon, en réalité, une élection s'organise avec des vrais compétiteurs, des vrais candidats. Mais quand Déby part aux élections avec des gens qui cherchent juste des postes ministériels, des partis politiques... qui ne sont pas d'ailleurs reconnus par le peuple tchadien, et qu'aux dernières minutes, on valide leur candidature, je crois qu'on ne peut pas parler d'une élection. Et c'est une escroquerie politique du régime MPS. Donc, en réalité, le peuple n'est pas sorti hier pour voter ou bien pour participer à cette élection. Et dans le bureau de vote où j'ai supervisé, sur 337 électeurs, il n'y a que 28 ou 29 seulement qui ont voté. Et ça, là, on ne peut pas parler d'une élection. Une élection, c'est la motivation du peuple pour élire un candidat de leur choix. Mais quand tout le monde refuse de sortir, tout le monde refuse d'accomplir ses devoirs de la citoyenneté, je crois qu'il y a un problème.
Il y a un problème. Vous nous dites, Hosanna, vous l'avez dit, vous étiez président d'un bureau de vote, si j'ai bien retenu à peu près les chiffres que vous avez donnés, vous dites sur 300 inscrits, il y en a à peu près seulement une trentaine qui ont voté. Merci beaucoup, Hosanna, depuis le sud du Tchad, qui nous dit un peu d'affluence au Tchad. On va demander à Christian. Christian, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous nos auditeurs de la JDA.
Bonjour Christian, vous êtes toujours à Gosbeida?
Oui, je suis toujours à l'est du Tchad.
Dites-moi Christian, vous êtes militaire un peu, non?
Oui.
Voilà, oui, donc parce que les forces armées ont voté la veille, samedi au Tchad.
Oui, les militaires ont voté la veille de l'élection pour les civils, ils ont voté le samedi.
Comment ça s'est passé chez vous?
C'était bien passé. Oui, la majorité des militaires ont voté seulement du côté civil que le taux de participation est tellement faible. Les gens ne sont pas sortis massivement pour voter comme les élections précédentes.
Et Hosanna avançait l'argument hein, de peu d'enjeux. Est-ce que finalement les gens sont lassés, blasés, ne voient pas l'intérêt d'aller voter, c'est ça?
C'est ça. Quand tu demandes quand ils vont voter, il n'y a rien comme changement dans une étude de voter. Quoi. C'est ce qu'ils disent.
Merci beaucoup, Christian, de votre participation. Hein. Bonne journée à Gosbeida au Tchad, où il est 12h38. Un dernier message hein, concernant le Tchad. Je crois que c'est Nestor hein, qui nous envoie un message sur WhatsApp. Il dit « L'affluence n'était pas au rendez-vous. On attend toujours à des manifestations par la population, voire des personnes armées. Ces scrutins ont été rien que de la mascarade sur mesure au détriment de la population lambda. » On va parler du Bénin. J'aurais jamais cru... Hein. Pouvoir mettre sur un même plan un jour dans une émission ou dans un reportage le Bénin et le Tchad, car si on est habitué aux élections sans suspense au Tchad, on l'est un peu moins concernant le Bénin. Et on se dirige justement tout de suite à Cotonou, retrouver Boris. Boris, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Boris, merci de votre patience. Alors, comment s'est déroulé le scrutin chez vous à Cotonou?
Ben, à Cotonou, le scrutin, ça s'est déroulé normalement, ça s'est bien déroulé. La population est sortie, comme même s'ils sont pas sortis comme les autres fois. Mais ceux qui ont véritablement vu en eux la fibre patriotique, ils sont sortis pour aller voter, sans pour autant être motivés comme ça se faisait entre-temps. Donc les gens sont sortis. Ils ont voté, ils ont fait leur choix et puis voilà, on attend les résultats de la Sénat pour savoir qui va diriger le Bénin.
Est-ce qu'il y a vraiment du suspense, Boris, sur le résultat?
Non, mais parfois, il n'y a pas de suspense quand le challenger ou le candidat qui est en face est véritablement de taille et que, véritablement, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, je peux dire qu'il n'y avait pas de suspense. Il n'y a pas de suspense. De toute façon, on n'a pas encore les résultats pour savoir s'il peut y avoir un coup de... Je ne sais pas quoi.
Un coup KO, comme on dit. C'était une victoire dès le premier tour, c'est ça? Selon vous, on va vers un coup KO, vous ne savez pas? Non.
Oui, on n'aura pas, forcément aller vers un second tour parce que, écoutez, les avis sont vraiment unanimes ici et tout le monde est préparé pour ce KO éventuellement. Ben, écoutez, parce que il n'y a pas véritablement de challenge vu le travail que le candidat président a fait. Véritablement, je pense pas qu'il puisse y avoir véritablement un second tour. Non, je pense pas véritablement.
Pas de suspense.
Parce que le président, oui, il n'y a pas de suspense. Il a fait un travail que même dans l'opposition, ils ont reconnu et tout ce que ils revendiquent, voilà, c'est. C'est pour leur avoir fermé la porte à la distribution massive d'argent, à la corruption. Donc, ils ont crié aux voleurs, aux sorciers, tous les noms d'oiseaux.
Ah, ils ont surtout crié au durcissement autoritaire et à l'exclusion de l'opposition du scrutin. Mais bon.
Ils ont crié à ça parce que, écoutez, c'est des gens qui n'ont pas voulu, qui ne veulent pas suivre la loi. Une loi qui a été fixée et qui s'impose à tout le peuple béninois. Donc du coup, il y a des gens qui, bon, naturellement, ils revendiquent parce que c'est leur droit de revendiquer, on est en pleine démocratie. Mais bon, il y a des thèses qui ont été par eux-mêmes voulues, c'est-à-dire cette loi de parrainage, entre-temps, par Joël Aivor, quand il était de l'autre côté, il avait souhaité le parrainage. Et c'est une loi qui était sur la table des députés bien avant que le président...
On ne va pas revenir hein, sur ce long processus, Boris, mais bon, on a bien compris pour vous tout s'est bien passé et qu'a priori, bon, Patrice Talon devrait être réélu. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit. Bonne journée, Boris.
Oui, oui. Allez, bonne journée, merci.
C'est moi qui vous remercie, Boris, de votre intervention. Bonne journée à Cotonou. On va aller un peu plus au nord du Bénin, mais ça reste au sud, j'ai envie de dire. Retrouver Vincent à Baumé-Calavi. Bonjour, Vincent.
Oui, bonsoir. Bonjour, chers journalistes.
Bonjour, cher Vincent. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Comment s'est déroulé le vote à Baumé?
Oui, tout à fait. Effectivement, j'étais à Boumé, mais après 5 ans, la situation s'approche. Je me suis rendu chez moi, surtout à Diakotomé, dans les fiefs du président Bruno Ange Amoussou.
D'accord, Diakotomé, c'est à quel niveau Diakotomé ? C'est plutôt au centre, au nord,
voilà,
au sud ?
Voilà, au sud. Au sud-ouest, à côté du Togo, pour le Bénin.
D'accord.
Et c'est le fief, la commune natale du président Bruno Ange Amoussou, le président du parti politique UPU non progressiste.
Bruno
Amoussou. Effectivement, les votes s'est bien déroulé dans mon pays, dans la commune. Effectivement, j'étais membre de la Sénat. Bon, en tout cas, parce que je suis toujours un citoyen du Bénin, même si les choses ne vont pas normalement. Bon, en tout cas, je suis vraiment un citoyen du Bénin. Je dois servir mon pays. J'étais dans mon poste, surtout dans le poste où j'étais membre. Ça s'est bien passé. Les militants, c'est-à-dire les votants, les scrutateurs sont bien sortis. Et c'était une surprise parce que on n'avait pas vu la campagne proprement dite sur, c'est-à-dire les porte-à-porte et consorts, on n'avait pas vu. C'est seulement la campagne est bien médiatisée. Et effectivement, je ne sais pas comment, par quelle machine, par quel moyen les votants se sont sortis. Et hier, ça s'est bien déroulé.
Il y avait du monde dans votre bureau, c'est ce que vous dites, Vincent? Il y a du monde qui est venu. Est-ce que vous avez un petit rapport à un prorata? C'est quoi, par rapport au nombre d'inscrits? Vous avez un peu le taux, je parle juste dans votre bureau, hein?
Oui, effectivement, madame la jeunesse, chez moi, nous avons 394 votants, surtout dans les bureaux de vote dont j'avais dirigé. Ils étaient 394, mais à la fin, il faut dire qu'environ 227 se sont sortis pour voter. Et effectivement, c'était apprécié parce que c'était une surprise, surtout à mon niveau. Donc, moi, je ne savais même pas qu'il allait sortir jusqu'à ce niveau pour venir voter à leur candidat ou bien à leur, c'est-à-dire pour voter de façon générale. Et c'était une surprise, surtout chez moi hier, quand j'étais là. Bon, effectivement, j'avais suivi, on a travaillé de longue haleine pour ces scrutins hier. Et aussi, il faut comprendre que de façon générale, au dire du président Emmanuel Tchando, le président de la Sénat, et il faut dire qu'environ 546 arrondissements, c'est 16 arrondissements qui n'ont pas pu voter hier, et à savoir surtout la commune du docteur Tumaboni Yayi, Tchaourou, le Nord, et Savé, et l'une des communes aussi, et aussi la commune Banter, comme la commune de l'ancien ministre Komi Koutché. Ces trois communes-là n'ont pas pu voter hier, comme l'a dit Audi, le président Emmanuel Tchandou, parce qu'on avait su à la veille, c'est vraiment les tirs retentissaient dans cette commune-là. Donc, et aussi, on avait recueilli des morts, des blessés. Donc, si on poursuivait les votes dans ces communes, effectivement, imaginez ce qui va se passer. Alors qu'en 2019, en 2020, vous avez appris vraiment ce qui s'est passé dans ces communes-là dont j'avais cité.
Et aussi, dont
Emmanuel Tchandou avait cité. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé hier quand on avait appris, à la fin de ces scrutins dont tout le monde attendait.
Le président de la Sénat, effectivement, a pris la parole au début de la nuit électorale. Hein. D'ailleurs, je vais juste redire, hein, selon la plateforme des organisations de la société civile au Bénin, les incidents reçus sont entre autres relatifs à des cas de bourrage d'urnes, de vote multiple, de séquestration d'observateurs. Il y en a deux observateurs ont été séquestrés, ils ont été rapidement libérés, intimidation d'électeurs, agents électoraux. Absence de représentants de tous les candidats dans certains bureaux de poste. Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée. Ah, Baumé,
merci beaucoup
de votre intervention très précise. Merci à vous, Vincent, qui trouvait qu'il y avait eu du monde dans son bureau. Il était à la frontière avec le Togo. Mais selon l'agence France Presse, dans les bureaux de vote visités à Cotonou, la capitale économique, les taux de participation ne dépassaient pas les 30%. Et Patrice Talon, mené avec une large avance face aux anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Koué, les deux candidats dits de l'opposition. Dans un instant, on va se rendre, je pense, que du côté du Canada. Avant ça, ce message de Christian sur les États-Unis. Et voilà, on va retrouver Abdel. Avant ça, ce message de Chris depuis les États-Unis. J'ai l'impression qu'il y a un recul démocratique dans les pays francophones depuis l'arrivée du président français, amplifié par la pandémie. Vous arrivez à mettre la France dans la sauce, c'est magnifique. Je suis inquiet parce que le sentiment anti-français ne fait que s'amplifier de plus en plus avec ces nombreuses élections non inclusives. La France, le pays des droits de l'homme, a le pouvoir de sanctionner les régimes autoritaires francophones en Afrique, nous dit Chris, qui pense que la France est responsable de ces reculs démocratiques. Abdel Wassi, bonjour.
Bonjour, Madame Stéphanie, comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous-même, Abdel?
Oh, très bien, sous un beau soleil ici à Montréal ce matin.
Ça y est, on
savoure déjà l'été qui s'installe.
Vous avez survécu à l'hiver.
Ah oui.
Tant mieux.
L'hiver s'est rangé très tôt, là. On ne voit même pas le printemps. C'est comme si l'été est rentré brusquement, là.
Merci, Abdel, pour ce point météo chaque fois. Le Bénin, vous avez entendu, hein, de part et d'autre, peu d'affluence et en même temps peu de suspense. Je le disais tout à l'heure, hein, jamais je n'aurais cru pouvoir mettre le Bénin et le Tchad sur le même plan. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est sûr qu'on n'a pas vécu l'engouement habituel qu'on connaît avec les suspenses des tailles. C'est vrai que le résultat du gouvernement a déjà montré que le choix était déjà fait d'avance, et puis ça fait que beaucoup de populations se disent qu'on connaît déjà le résultat, comme les gens disent en Afrique, qu'on connaît le résultat avant les élections. Malheureusement, ce n'est pas une bonne image, mais c'est une réalité parce qu'on n'a pas une opposition qui est assez construite, qui s'est montrée à la hauteur de la chose. Au lieu de jouer vraiment un jeu démocratique, l'opposition a joué à un faux jeu, en cautionnant des chasseurs pour traîner les armes contre la population, contre le peuple béninois.
C'est des accusations infondées, mon cher Abdel.
Non, ce n'est pas, c'est bien fondé. Nous avons suivi un des anciens ministres qui est en asile à Paris, qui a dit être en contact avec les chasseurs et qui demande davantage de leur donner des moyens pour affronter l'armée qu'elle traite d'armée inconsciente. Donc ce n'est pas une accusation gratuite, c'est vraiment des faits réels. Et puis, si vous savez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils ont envoyé des messages partout pour dire que les chasseurs sont des invisibles. Ils vont envahir Cotonou, Calavi, Porto-Novo le jour du vote. Donc, ils ont tout fait pour dissuader les gens d'aller
Si le mysticisme s'y met, effectivement, Abdel, donc pour vous, hein, ce que disait d'ailleurs le porte-parole du gouvernement béninois, Patrice Talon aussi l'a dit, hein, il a dit les jeunes sont manipulés, les jeunes qui manifestent sont manipulés.
Il y a toute une grosse manipulation qui est, ça va, si vous suivez vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils envoient des messages alarmants partout.
Oui, mais vous savez ce qui se passe sur les réseaux.
D'aller au vote. Ça, c'est une réelle chose. Malheureusement, il y a des gens qui, chacun veut sauver sa tête là, donc ça fait que ça démobilise. Ça, ce n'est vraiment pas démocratique et c'est le mal qu'ils sont en train de faire à ce pays-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à travers ça et puis penser vraiment à l'unité nationale. Parce que depuis toujours, ce n'est pas qu'il n'y a jamais eu de mécontents. Quand on fait les élections, il y a toujours eu des mécontents. Mmh. Mais les gens pensent beaucoup plus sur le Bénin et gardent un profil bas pour aller de l'avance. Mmh. Malheureusement, les gens, il y a, cette fois-ci, là, on a vu des gens qui veulent aller jusqu'à l'extrême. C'est ce qui fait qu'on nous donne des schémas qu'on n'a jamais vus au Bénin où on voit des armes qui crépitent. Ce n'est vraiment pas l'image du Bénin que nous connaissons et on veut que ça soit effacé à jamais.
Nous allons
ces opposants-là se repentissent le plus rapidement possible.
Nous allons panser les plaies, a dit hein, le président Patrice Talon hier. Merci beaucoup, Abdel, de votre contribution. Je demande à Georges hein, de patienter un petit peu. Dans l'ordre d'arrivée, Richard, bonjour.
Bonjour Stéphanie, comment vas-tu?
Bonjour Richard, bon, suis-toi, c'est magnifique.
Excusez-moi.
Richard, vous parliez de la prolongation du mandat de Patrice Talon, hein, ces 45 jours qui ont été prolongés suite à la modification constitutionnelle. Vous dites que c'est à double tranchant.
Oui Stéphanie, je voulais dire par là que c'est un couteau à double tranchant parce que quand on prend 45 jours, pendant les 45 jours, l'opposition aussi peut affûter ses armes, peut faire une bonne stratégie et peut gagner aussi des électeurs en plus, ou comme ils peuvent perdre, comme Talon aussi. Mais entendre ce qui vient de se dire par ceux qui m'ont précédé, je crois qu'on en va trop loin. Parce que la politique actuellement est une stratégie, une intelligence. Ce n'est plus par la force qu'on fait des choses, on fait par intelligence certaines choses. Moi, je crois que l'opposition doit avoir un contrôle des qualités, les qualités de ses membres. Être sûr que les membres sont adhérents. Comment est-ce possible qu'on arrive dans un pays où il y a tant de jeunes, mais au moment des élections, les jeunes disent toujours qu'ils ont été instrumentalisés. Par qui? Et comment? Et pourtant, ils ont vécu la même chose que tout le monde. Moi, je crois que M. Talon, en 45 jours, ça n'a pas été à voir. Je ne suis pas béninois, mais je suis africain. Je crois que nous devons arriver à une politique de haut niveau. Au lieu toujours de dire que c'est l'autre, comme M. Pédic de Talon, c'est la France. Mais la France, par rapport à quoi?
Oui, pour le coup, la France, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu. La France qui était plutôt gênée hein, aux entournures, hein, que ce soit pour le Tchad ou le Bénin. Merci beaucoup, Richard, hein, pour cette analyse. On reconnaît un peu le juriste, il me semble, hein, derrière cela. Alors, je suis désolé, Georges arrive toujours en dernier. Bonjour, Georges.
Ouais, bonjour, Stéphanie. Bonjour aux auditeurs. Tout d'abord, je commence par dire que nous, on a retrouvé un peu
le relaxement de confinement ici.
Ah oui, on vous envie. J'ai failli prendre le...
Oui, j'étais trop tôt à la gym ce matin avant de commencer le boulot. Donc, ce qui fait du bien quand même. Et les buvettes aussi sont ouvertes. Je vais dire, quoi. Tout juste, je voulais parler, ma contribution, c'est de dire au peuple de Nîmes ou bien au gouvernement, du nouveau gouvernement de Talon, d'être rassembleur et puis de dialoguer parce qu'il faudrait que la démocratie soit ouverte à tout le monde. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans les pays francophones, depuis que la démocratie a commencé, à chaque fois qu'il y a les élections, malgré que les opposants sont restés en Europe, je n'ai pas dit de copier le style européen, mais à chaque fois qu'il y a élection, c'est en ce moment, il y a arrestation, il y a des troubles, il y a des trucs, ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a élection, pourquoi on ne peut pas écouter que quand il y a élection, les élections se passent dans des apaisements, il y a une bonne campagne, et puis ainsi de suite. Donc à chaque fois, je ne sais pas, à chaque fois, c'est dans les pays francophones que cela se passe.
On a vu en Côte d'Ivoire,
en Guinée.
Si vous me permettez, Georges, et on arrive à la fin de l'émission, mais on entend bien, et vous êtes nombreux à avoir dit ça, de nombreux auditeurs ont qualifié de pays francophones. On se rappelle quand même qu'au Kenya, en 2007, notamment, il y a eu un grave conflit post-électoral et qu'on voit aussi des conflits post-électoraux dans les pays anglophones. On aura peut-être l'occasion de faire un débat autour de cette question. Vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. On se retrouve demain, mardi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Demain, je vous propose de parler de Dicène Abré au Sénégal. Sa famille demande sa libération pour quelques mois en raison de santé. Qu'en pensez-vous ? 33 1 55 07 58 05 pour vous inscrire. Notamment, prenez soin de vous à l'écoute d'Africa Radio. À demain.